RFI 23h, à Paris 22h en temps universel.
24h en France sur RFI. Charlotte de Rouen.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette édition consacrée à l'actualité française. Un mort et au moins trois blessés aujourd'hui à Mulhouse, une attaque terroriste selon le président Emmanuel Macron. L'assaillant présumé est un franco-iranien connu pour son islamisme radical et ses troubles psychiatriques. Le narcotrafiquant Mohamed Amra, arrêté en Roumanie, l'homme était recherché depuis son évasion qui avait coûté la vie à deux agents pénitentiaires lors de l'attaque ultra-violente de leur fourgon. La plus grande ferme de France a ouvert ses portes aujourd'hui, le salon de l'agriculture où a déambulé le président Emmanuel Macron dans une ambiance plus sereine que l'an dernier. Le chef de l'État promet de défendre les agriculteurs à l'international, notamment face aux menaces que Donald Trump fait planer sur les produits européens. Manuel Valls accueilli par des sifflets en Nouvelle-Calédonie, le ministre des Outre-mer pris à partie au premier jour de sa visite dans l'archipel particulièrement divisé. Et puis du foot et un sixième déplacement sans victoire pour Monaco, battu 2-1 à Lille.
24 heures en France sur RFI.
L'horreur vient de saisir notre ville. Réaction de la maire de Mulhouse après l'attaque terroriste qui a eu lieu cet après-midi. Un homme a voulu s'en prendre aux forces de l'ordre. Un civil s'est interposé. Il est décédé. Trois policiers municipaux sont grièvement blessés. Le parquet national antiterroriste a été saisi. Retour sur les faits avec Mochaïla.
L'attaque est survenue vers 16h dans le centre-ville de Mulhouse, au niveau de la place du marché. Un homme s'est dirigé vers des policiers municipaux avec un couteau en criant « Allahu Akbar ». Une personne qui a cherché à s'interposer est décédée. Deux policiers municipaux ont été grièvement blessés, trois autres plus légèrement. L'individu a été arrêté peu de temps après. Il est actuellement en garde à vue. D'après nos informations, il a 37 ans. Il est connu des services de police. Le procureur de la République de Mulhouse précise même qu'il est inscrit au fichier de prévention du terrorisme. Il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. C'est le parquet antiterroriste qui s'est saisi de l'affaire. Il a ouvert une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste sur personne dépositaire de l'autorité publique.
Maud Chaila de Ici Alsace, nos confrères de Radio France. Depuis sa sanglante évasion, il était l'un des hommes les plus recherchés de France. Mohamed Amra a été arrêté ce samedi en Roumanie. Il s'était évadé en mai dernier lors d'un transfert. Deux agents pénitentiaires avaient été tués lors de l'attaque de leur fourgon à un péage. Après 9 mois de cavale, le fugitif a finalement été interpellé. Elisa Fellier.
284 jours qu'il était introuvable. Mohamed Amra et ses complices étaient recherchés en France par plus de 300 enquêteurs. Visés par une notice rouge d'Interpol, de lourds moyens ont été déployés, y compris à l'étranger, pour retrouver le détenu évadé. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, a remercié pour leur coopération décisive les forces de police et la Roumanie, pays où Mohamed Amra a été arrêté. Le 14 mai dernier, le narcotrafiquant s'était évadé lors d'un transfert en Normandie, dans le nord-ouest de la France. Des complices avaient attaqué le fourgon blindé dans lequel il était transporté. Une attaque à la voiture bélier et au fusil d'assaut d'une grande violence et dans laquelle deux agents pénitentiaires ont été tués et trois autres blessés. Mohamed Amra, surnommé la Mouche, serait à la tête d'un réseau de trafic de stupéfiants. Il est soupçonné d'avoir commandité plusieurs meurtres pendant sa détention.
Elisa Fellier. 1400 exposants, 4000 animaux, le salon de l'agriculture a ouvert ses portes ce samedi. Un rendez-vous particulièrement électrique en 2024 entre agriculteurs et hommes politiques. Cette année, la colère des exploitants agricoles s'est légèrement dissipée et l'ambiance est plutôt apaisée. Amélie Beaucourt.
La tension est redescendue d'un cran. La loi d'orientation agricole, adoptée juste avant le salon, a permis de répondre à une partie des préoccupations de certains agriculteurs. Mais le compte n'y est pas tout à fait. Et ça se lit sur le visage de Clément Simian, éleveur de vaches laitières des Hautes-Pyrénées, dans le sud de la France.
L'ambiance est... Voilà, elle est ce qu'elle est, c'est pas non plus l'euphorie, mais bon, c'est l'année dernière, ça a quand même un peu dégénéré. Ça n'a pas montré une bonne image. Tous les gens qui passent ou qui s'arrêtent discuter nous disent qu'ils nous soutiennent, donc ça fait toujours plaisir à entendre.
Le cœur est plus léger chez les visiteurs qui déambulent à la recherche de l'attraction principale de cette 61e édition. La vache choisie cette année pour être l'égérie du salon s'appelle Houpette, clin d'œil à la petite mèche rebelle qui se dresse sur sa tête. Elle est venue avec son quatrième veau, endormi à ses pieds, et avec son éleveur, Alexandre Humeau, très fier de sa super.
C'est une vache de race limousine, qui a 6 ans. Choupette pèse un peu plus d'une tonne. Je l'ai vu naître, je l'ai vu grandir, je l'ai dressé pour l'habituer à aller sur les concours et tout. Elle est accompagnée de son veau, qui s'appelle Vienne, qui est né le 25 décembre. Le matin de Noël, comme m'ont dit mes enfants, c'était ton cadeau. Voilà.
Pour ce premier jour, les effectifs de police étaient nombreux à veiller au grain pour éviter les débordements de l'année dernière. 600 000 visiteurs sont attendus jusqu'à la fin du salon, le 2 mars prochain.
Reportage signé Amélie Beaucourt. Emmanuel Macron qui a débambulé ce samedi dans les allées du salon. Le président français qui a tenté de rassurer les agriculteurs. Il affirme vouloir défendre les productions françaises, notamment face aux menaces de surtaxes douanières brandies par Donald Trump. Les deux hommes doivent se rencontrer lundi à Washington pour parler de la situation en Ukraine. Mais le président français compte aussi en profiter pour évoquer ces menaces de hausse de tarifs douaniers. On l'écoute.
Ça fait partie des sujets qu'on va défendre, parce que j'essaie d'expliquer que quand on parle entre alliés et partenaires, on peut pas vouloir faire souffrir l'autre par des tarifs qui, par le passé, et on le voit encore aujourd'hui pour nos producteurs d'Armagnac et de Cognac, qui sont frappés sur le marché chinois, quand vous avez des menaces, quand vous avez des tarifs, quand vous avez des mesures de contrainte, ce sont des familles qui sont menacées dans leur activité. Donc oui, je vais en parler parce qu'on a besoin d'apaiser tout ça. Je vais en parler parce que l'export fait partie aussi de la force de notre agriculture. Je suis déterminé sur tous les sujets pour avoir un échange qui, je l'espère, sera amical, comme on l'a toujours eu, mais qui sera en même temps clair. On partagera nos accords, nos désaccords, et j'espère surtout qu'on trouvera des solutions sur la question de l'Ukraine, sur la question des tarifs et au-delà.
Emmanuel Macron au micro de Valérie Gasse et Diego Tenorio. Manuel Valls, lui, est en Nouvelle-Calédonie. Le ministre des Outre-mer va passer une semaine dans l'archipel avec une mission, renouer le dialogue entre indépendantistes et non-indépendantistes et tenter d'ouvrir les négociations. La Nouvelle-Calédonie, qui avait été secouée en mai 2024 par des violences qui ont fait 14 morts et des milliards d'euros de dégâts à son arrivée, s'est saoulée, huée. Que Manuel Valls a fait ses premiers pas sur le Caillou. Reportage à Nouméa de Charlotte Manvi.
C'est le nouveau slogan des partisans de la Calédonie française. No pasaran, ils ne passeront pas. Une référence aux origines catalanes du ministre des Outre-mer, accusé par les non-indépendantistes de vouloir lâcher l'archipel. Alors, sitôt la cérémonie terminée, Manuel Valls tente de nouer le dialogue.
Vive la France, vive la Nouvelle-Calédonie.
Mais de quoi avez-vous peur? Pourquoi vous
peur? Restez français.
Mais pourquoi vous ne resteriez pas français? Il faut pas croire tout ce qu'on vous dit.
Ce qui voit Manuel Valls tant d'hostilité, ce sont ses propos sur une souveraineté partagé entre la France et l'archipel, un terme qui est pourtant dans l'accord de Nouméa signé en 98, mais dont ses loyalistes ne veulent plus.
On a eu trois référendums où on a dit non à l'indépendance, alors on aimerait bien qu'on nous prenne en compte.
Le problème, c'est que le dernier référendum a été boycotté par les indépendantistes. Seuls 47% des Calédoniens y ont participé. Et l'insurrection de mai dernier sur fond de réforme électorale imposée par l'État l'a montré. Faire sans les indépendantistes, c'est risquer que l'archipel ne sombre à nouveau dans la violence. Il faudra donc trouver un équilibre. C'est tout l'enjeu de cette visite qui doit permettre d'ouvrir des négociations sur le futur statut du territoire. Charlotte Manvi, Nouméa, RFI.
24 heures en France.
En football, Lille a battu Monaco 2-1 ce samedi au stade Pierre Mauroy, des Lillois qui se hissent provisoirement à la troisième place de Ligue 1. Monaco a poussé mais n'a pu que réduire l'écart. L'ASM perd donc une place au classement et occupe la cinquième position pour l'international marocain Elias Ben Seghir. Le club du Rocher doit se montrer plus incisif offensivement et défensivement.
Du regret, oui, parce que dans ce type de match, c'est les détails qui comptent. Après, c'est pas non seulement cette erreur qui a fait que le résultat est ce qu'il est. Nous aussi, je pense que devant, on aurait pu essayer d'être plus efficace avec toutes les occasions qu'on a eues. Mais après, c'est comme ça. On a affronté une très belle équipe chez eux. On sait que c'était dur. Mais je pense qu'on a délivré une belle prestation, surtout en deuxième mi-temps. Et c'est ce qu'on va retenir. Maintenant, il va falloir essayer d'être plus chirurgical, que ce soit en attaque comme en défense. Et je pense qu'on passera un grand step. On est une équipe encore jeune. On essaye de travailler à l'entraînement. Il n'y a pas tout qui va arriver d'un coup. Donc, bien évidemment, on essaye de bien jouer et de gagner. C'est pas forcément chose facile. Maintenant qu'il nous reste qu'un seul match par semaine, on va avoir plus de temps pour travailler et je pense que ça va nous aider.
Des propos recueillis par nos confrères de Bing.